Bonjour à toutes, bonjour à tous. Toute une vie, le portrait sonore d'hommes et de femmes qui ont marqué leur époque et peut-être surtout les suivantes. Aujourd'hui, Jonas Mekas. Une émission proposée par Anaïs Quien avec Sylvia Favre. Il se disait filmeur bien plus que réalisateur. Jonas Mekas a imprimé sa propre vie sur pellicule sous la forme d'un journal de légende. Entre Brooklyn et Vilnius, entre la Shoah et la bouillante contre-culture new-yorkaise des années 60, il filme aussi bien Andy Warhol, Allen Ginsberg, Jackie Kennedy ou sa propre mère et invente un nouvel art cinématographique. Il aurait eu 100 ans aujourd'hui et c'est une fête que l'on célèbre dans toute une vie avec Jonas Mekas.
We are running.
Sato.
We are running.
Sato.
My name is Jonas.
Mon nom est Jonas.
That is the first name.
Ça, c'est mon prénom. Mon nom de famille s'écrit
M-E-K-A-S. Now, some people pronounce it Mekas.
Les gens prononcent Mekas ou Mekas.
Where I come from originally.
Là d'où je viens,
that is Lithuania.
En Lituanie,
they used to pronounce it.
On prononce
Mekas.
J'ai découvert l'œuvre de Jonas Mekas dans les années 70 et ça a littéralement changé ma vie. C'est-à-dire que ce jour-là, j'ai eu le sentiment, même si j'étais déjà cinéphile, etc., j'ai eu le sentiment que le reste du cinéma était mort.
I would say Jonas Mekas.
Pour moi, Jonas Mekas est bien plus qu'un cinéaste,
just a filmmaker.
Même plus qu'un poète.
Than a poet, I think he was a prophet.
C'est un prophète.
The one who made his films and his poetry.
Un de ceux qui fait ses films et écrit ses poèmes à partir de la nostalgie et de la douleur d'être séparé de sa patrie. Je pense qu'il est un miroir des artistes du XXe siècle.
Dans un poème, il dit: Memory still keeps bleeding. La mémoire encore ne cesse de saigner. Il y a du tragique. Il a vécu un déchirement tragique. Cet arrachement de la culture lituanienne, cet arrachement de la langue lituanienne, et ce renouveau, cette renaissance qu'il a vécu en allant aux États-Unis.
Oh, sing, Ulysses.
Chante, Ulysse.
Sing your travels.
Chante tes voyages.
And tell a story.
Et dit l'histoire d'un homme qui n'a jamais voulu quitter sa terre.
Au début de Lost, 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 Jonas reprend en fait le début de l'Odyssée d'Homère. Il s'identifie à Ulysse et il décide que lui aussi va chanter, va raconter son voyage.
Chante comment il a été jeté dans le monde.
Lakshtingalela Links mas pokteli kodel nechulbi angstiritali kodel nechulbi angstiritali kohaschulbesu angstiritali.
Jonas Mekas, l'homme caméra, Bruno Barada, Nathalie
Salle.
Cette voix qui se brise est celle d'un homme de 95 ans qui se souvient. Né en 1922 dans le petit village de Semenice en Lituanie, Jonas Mekas grandit dans les champs et dans les livres. Les livres cachés des soviétiques d'abord, puis ceux réchappés des nazis qui leur succéderont en 1941. Enfant, Jonas Mekas s'identifie à un vieux poète juif dans son village. Lorsqu'il est exécuté par les nazis, Jonas Mekas a déjà repris le flambeau et publie des poèmes dans sa langue natale.
But I was young,
j'étais jeune,
naïf
et patriote.
And I was editing these
Je tapais ces bulletins clandestins dirigés contre les nazis et contre l'Allemagne. Je cachais ma machine à écrire sous un tas de bois derrière la maison. Une nuit, un voleur l'a trouvé et l'a prise. C'était seulement une question de jours ou d'heures avant que les Allemands l'attrapent avec ma machine. J'avais très peu de temps pour disparaître. Notre oncle nous a dit à mon frère, Adolphas et à moi, partez à l'ouest, voyez le monde et revenez.
Donc ils sont partis en train, mais le train était dévié. Ils sont arrivés pas à Vienne, mais à Hambourg. Et mis dans une baraque, c'était pas un camp de concentration, c'était un camp de travail.
Pip Chodorov, cinéaste et éditeur des films de Jonas Mekas.
Je crois qu'il travaillait pendant 9 mois avant de s'enfuir, en fait. Ils sont échappés et ils sont réfugiés dans une ferme dans le sud de Danemark. Et ils savaient même pas que la guerre était terminée. Ils ont resté un peu plus longtemps que prévu. La guerre était terminée. Et en sortant de là, ils ne pouvaient pas retourner en Lituanie. C'était fermé. Et ils se sont retrouvés dans un camp, du coup, de personnes déplacées. Et quand ils étaient ensemble dans les camps de personnes déplacées, ils ont écrit des poèmes, ils ont écrit des journaux, ils ont écrit des pièces de théâtre. D'ailleurs, à Paris, on a trouvé récemment un livre publié en 1944 en Allemagne par les deux frères. Ils ont changé de camp de personnes déplacées parce qu'ils voulaient aller un peu à l'université. Ils décrivent comment ils sont partis en vélo. Il n'y avait même pas de pont parfois pour traverser des rivières. C'était vraiment rude. Et ils sont finalement restés 4-5 ans en Allemagne dans les camps. Ils ont essayé de partir au Canada pour faire un travail de boucheron, mais il n'y avait pas de place. Ils essayaient d'aller en Égypte. Ils essayaient de partir en Israël. Et finalement, ils avaient reçu une invitation pour partir à Chicago pour devenir boulanger.
Puis, ils arrivent comme ça le soir à New York. Et là, ils ont une espèce comme ça d'éblouissement devant la ville.
Patrice Rollet, critique et historien du cinéma.
Et en se disant, mais pourquoi aller à Chicago? Le centre du monde, c'est ici. Et donc, ils décident de rester à New York. Ils ont très, très peu d'argent. Ils vont travailler tous les deux dans des entreprises, parfois des usines.
Des petits boulots qui payent $1 par jour. Je crois que son frère a travaillé dans une usine de matelas. Et ils étaient ensemble pendant toute cette période. Ils avaient les mêmes expériences, les mêmes amis. Et il avait envie de filmer avec son frère un documentaire. Et il a commencé par emprunter une caméra 16 mm pour filmer un peu. Et finalement, il a pu emprunter un peu d'argent pour acheter une caméra. Et on a le reçu de l'achat de la caméra qui est daté d'avril 1950.
Il crevait de faim, il faisait la plonge dans un restaurant lituanien.
Jean-Jacques Lebel, artiste et ami de Jonas Mekas.
Il rentre un type bizarre et il commence à lui parler. Et c'était le grand sculpteur Archipenko. Et Archipenko lui dit, mais jeune homme, qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? J'écris, je suis poète. Ah bon, c'est intéressant, etc. etc. Et qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Mon rêve, ce serait de faire du cinéma, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Et il dit, moi je peux peut-être vous aider. Et il lui fait un petit mot d'introduction auprès de son ami Hans Richter, l'ancien dadaïste, donc allemand, qui était à New York et était professeur à la New School for Social Research, professeur de cinéma. Et c'est comme ça qu'il a été introduit, grâce à Archipenko, dans ce circuit des inventeurs du cinéma qu'on n'appelait pas encore à l'époque le cinéma underground, mais qui était, disons, le cinéma marginal.
Il se voyait plutôt comme un poète. Et je crois que l'achat de la Bolex est lié à la forme de l'exil de Mekka. C'est-à-dire que quand il arrive, bon, il parle très mal la langue, et donc il regarde, il observe. Et Jonas a toujours pensé que tout est à la surface. Pas besoin de fantasmer des profondeurs. Tout est lisible à la surface. Et l'exilé, il a, disons, une perception ultra sensible, une sensibilité exacerbée parce que, bon, il n'a rien, il est perdu. Et donc, il regarde, il observe. Et cette observation, c'est la forme même du cinéma de Jonas.
Il était aussi intéressé par les langues. Quand il était à l'école, il s'est rendu compte qu'il avait appris un dialecte lituanien de son village. Et donc, il fallait réapprendre la langue. Mais juste après ça, les Russes sont arrivés et ils ont dit il faut apprendre le russe. Et donc, il a fait 2 ans de russe. Et après, les Allemands sont arrivés en disant il faut apprendre l'allemand. L'histoire continue quand il était dans le camp à Hambourg. Il s'est dit, maintenant, je peux vraiment apprendre l'allemand. Mais il a appris plus tard que c'était le Plattdeutsch à Hambourg, et pas le vrai allemand. Et c'est pour ça qu'il s'est dit aux États-Unis qu'il en avait marre. Il ne voulait pas apprendre l'anglais, il voulait juste faire les films. Il s'est dit que le cinéma, c'est une langue universelle. Alors, il a commencé à faire ses films avec ses amis, courir avec les caméras, faire des films à sa façon. Plus tard, en rencontrant des cinéastes hollywoodiens, il a projeté ses films et les cinéastes hollywoodiens disaient « Mais on ne comprend pas ce que vous faites, c'est quoi comme film ?» Et il avait compris qu'il avait appris la mauvaise langue de cinéma, l'avant-garde.
Voilà, je mets la bobine de l'autre côté. Et après, tu es prêt à filmer.
Marie Lozier, vous êtes cinéaste et comme Jonas Mekas, vous filmez avec une caméra Bolex. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le fonctionnement de cette caméra ?
C'est tout d'abord un son merveilleux. Il a un son de ronronnement qui doit être juste. Ça fonctionne. Et il y a 3 minutes qui sont parties. Et 3 minutes, c'est très rapide. Et en même temps, c'est très précis. Et c'est ce que j'adore parce que ça crée une certaine temporalité et du tournage et du temps et de la façon de filmer. Je peux changer de vitesse aussi. Quand je fais un ralenti, c'est quand même le plus beau ralenti du monde. C'est pas du tout comme le faire en post-prod. Il y a énormément d'effets spéciaux que j'adore. La surimpression, l'animation, le tourné monté, les flashs de lumière, les flashs de couleurs, comment on utilise aussi une sorte d'immédiateté. Par rapport au tournage, on ne regarde pas les rushs, donc c'est extrêmement dans le sensible, c'est vibrant pour moi, et il y a aussi toujours la possibilité d'avoir raté, ou d'avoir pas d'image, ou d'avoir fait une sorte d'erreur. C'est un objet qui pèse 3 kilos, qui tient dans la main, quoi. Il y a quelque chose de constamment dans le bon endroit de la main, du pied, des hanches. Le corps est très mobile, pour moi c'est de la danse, quoi.
Avec une Bolex, on peut tout faire au tournage. C'est-à-dire que ça évite des frais de laboratoire que ni Jonas ni Adolphas ne pouvaient se payer. Un outil formidable. Et d'ailleurs, Jonas, à la fin de sa vie, a consacré une petite vidéo à ses différentes Bolex.
Et puis, quand tu fais du tourné-monté, tu passes de ça. C'est ça que je dis, où justement tu déplaces.
Et moi, j'ai connu Jonas avec sa Bolex, bien sûr.
Agnès B., styliste et mécène de Jonas Mekas.
Alors, on se fumait mutuellement. Moi, avec ma Sony, la petite Sony, et lui avec sa Bolex. Un jour, à la galerie, quelqu'un lui pique sa Bolex. Ah, on était au 100 coups. Hein. C'était la galerie du jour, quand elle était rue Quincampoix. Un Bolex avait disparu. Alors, moi, je commence à faire jouer mes réseaux... Je dirais pas de relou, mais de graffeur, de bon. Alors je convoque Jaya, je lui dis « Jaya, tu dois rendre cette caméra, tu te rends pas compte, c'est le trésor de Jonas, c'est son outil de travail. Oh » Alors il était horrifié, il a rapporté la caméra.
My dear viewers,
chers spectateurs,
I guess you have come to another realization by now. And that is,
vous êtes en train de vous rendre compte
I am not really a film
que je ne suis pas vraiment un réalisateur.
I do not make films.
Je ne fais pas de films, je filme seulement.
I'm most obsessed
je suis obsédé film. Par l'action
I'm
de
really
filmer.
A filmer.
Je suis un and filmeur.
It's me and
c'est moi
my Bolex.
Et ma Bolex.
I go through this life.
Je traverse cette
with
vie
my Bolex.
Avec ma Bolex.
And I have to
et je dois
film
filmer ce que je
what
vois,
I see, what is
ce qui se passe
right there.
Tout de suite.
What
maintenant. Quelle extase de filmer. Pourquoi devrais-je filmer des films quand je peux juste filmer? Quand je peux juste filmer tout ce qui se passe là, devant moi, filmer maintenant mes amis, ce que je vois, je pourrais seulement filmer mes souvenirs. Je m'en fous.
Dès le début, Jonas et son frère Adolphas ont travaillé ensemble et ont essayé de faire un vrai film. Disons un film narratif.
Inessa Brachiske, historienne de l'art et commissaire d'exposition.
Ils ont commencé à filmer et immortaliser la vie quotidienne de la communauté lituanienne de New York. Et en même temps, ils travaillaient à filmer et rassembler les images de ce vrai film. Car le premier film des frères Mekas, Guns of the Trees, est dans l'esprit du nouveau cinéma américain.
Et ce film qu'il tournera, en fait, est un assez beau film, mais très différent de ce que Jonas fera par la suite, parce que c'est un film donc où il y a des acteurs qu'on retrouve chez John Cassavetes, par exemple, comme Ben Caruso. C'est un film plutôt en long plan, assez contemplatif. Mais bien que ça soit un film très indépendant, avec très peu d'argent, Jonas, en fait, se rendra compte que la mise en scène, c'est pas pour lui, qu'il n'aime pas ça. Que le travail en équipe, c'est pas pour lui, qu'il n'aime pas ça. Et que ce qu'il aime, c'est filmer seul avec Zabolex ce qui lui arrive, ses rencontres, ses amitiés.
En 1957 ou 58,
one Sunday morning,
un dimanche matin, nous sommes allés dans les Catskills, dans les bois.
It was good to walk.
C'était bon de marcher.
Like that. And not to think,
et de ne pas penser,
not to think anything
de ne penser à rien des 10 dernières années,
years. Not to think about the years of war,
ne pas penser aux années de guerre,
of hunger,
de faim,
of Brooklyn.
À Brooklyn.
For the first time, I did not feel,
pour la première fois,
alone in America.
Je ne me sentais pas seul en Amérique.
Like I felt,
je sentais le sol, la terre, les feuilles, les arbres, les gens. Comme si j'en faisais peu à peu partie. Et il y a eu un moment où j'ai oublié mon pays.
Comment ? Je veux dire, vous arrivez à New York en 1949, vous parlez anglais mais pas couramment, et au bout de 5 ans, vous commencez à publier un des magazines dédiés au cinéma les plus importants aux États-Unis et dans le monde. Je parle de Film Culture, qu'il a commencé avec son frère Adolphas. Et en même temps, il programmait des films dans plusieurs endroits de New York, notamment à la East Gallery. C'est intéressant d'ailleurs qu'il soit d'abord devenu critique de cinéma et programmateur avant de faire ses propres films. Même si, bien sûr, pendant tout ce temps, il n'a jamais cessé de tourner. Mais comment c'est possible? Vous avez encore besoin de temps pour vous acclimater, vous travaillez à côté pour survivre, et juste comme ça, il se dit, j'aime le cinéma, donc je vais le faire, et il l'a fait.
Jonas, quand on lui posait la question, alors, vous êtes né en Lituanie, mais vous vivez à New York, vous faites partie de la scène contre-culturelle de New York, comment vous vous situez? Est-ce que vous vous sentez lituanien ou américain? Il refusait absolument de répondre à ce genre de questions, il répondait toujours la même réponse qui est magnifique. My country is cinema. Mon pays, c'est le cinéma. My country is cinema. Ça, c'est Jonas, voyez-vous.
I think that he was passionate. Je crois qu'il était passionné. Il n'a pas adopté l'esprit expérimental dès le début. C'était une conversion graduelle. Il l'appelle sa conversion de Saint-Augustin. Donc c'était très progressif.
Entre 1950 et 1963, son style a changé légèrement de style documentariste. où il filme proprement, lentement, bien, entre guillemets, jusqu'à essayer de capter les choses autrement, de faire différemment. Et on trouve un style qui se libère dans les années 62, 63, quand son frère a fait Hallelujah the Hills et Jonas était avec lui, il a commencé une série de haïkus, par exemple, de petits brins d'images qui n'avaient pas forcément de sens documentaire, mais qui étaient juste intéressants graphiquement, ou des mouvements de caméra brusques, ou des détails, des textures, ou l'accéléré, le ralenti. Et à partir de 64, il s'est lancé plus, avec plus de confiance dans cette direction-là, après avoir vu des films de Mary Menken, qui, elle, était très très libre, la caméra gesturelle, des plans très rapides, assez flous, ça lui a beaucoup inspiré, rassuré pour dire oui, en fait, on peut aller plus loin, prendre des risques, faire des choses plus personnelles, plus poétiques, et c'est pas grave si c'est pas bien filmé, entre guillemets.
Au commencement, pour Jonas, au commencement, il y a l'émotion. L'émotion des personnes qu'il filme, l'émotion qu'il ressent, mais pour Jonas, l'important, c'est qu'il fallait que cette émotion passe au moment même du filmage, dans l'instantanéité du filmage, que cette émotion soit inscrite, j'allais dire, dans la texture des images, dans la chair des images. Et ça, c'est quelque chose qu'il a réellement découvert en faisant ces petits films, qui sont comme des petits poèmes en prose cinématographique, ou comme des haïkus filmiques, parmi lesquels Notes on the Circus, Report from Millbrook, Cassis.
Jean-Jacques Lebel, quand est-ce que vous avez rencontré Jonas Mekas pour la première fois?
C'était en 1966, au festival de Cassis, et nous sommes devenus amis pratiquement tout de suite. Il se trouve que j'étais amené à faire ce qu'on appelait à l'époque un happening dans le port de Cassis. Et Jonas a filmé tout ça et a publié un commentaire assez extraordinaire dans le Village Voice. Et il a immédiatement compris notre propos qui était de subvertir tout le système marchand de l'art, toute la définition même de ce qu'est l'art et son rôle dans la société, parce qu'il faisait pareil avec ses moyens à lui, ses techniques à lui, et nous sommes restés extrêmement liés. C'était ce qu'on appelle un frère adoptif.
Dans Notes for Jérôme, vous apparaissez en tenue d'Indien ?
Exactement, avec Taylor Mead, autre génial cinéaste, et Bernadette Lafont. Voilà, c'est la petite ville de Cassis, à côté de Marseille, les Calanques. Voilà le port. Vous remarquez l'extrême morcellement de sa manière de filmer.
Et là, c'est vous.
On est en pleine nuit, et les membres du Living viennent d'arriver, à poil, tous montés sur des chevaux. Et voilà la foule. Et il se passe toutes sortes de micro-événements. Il y avait un énorme serpent, comme le Loch Ness en Écosse, gigantesque, qui traversait le port qu'on voit et qui remontait, qui ressortait de l'eau. Et alors les gosses se jeter dessus, évidemment, tomber dans le port. Les parents se mettaient à crier. Voilà, on voit le serpent, là. Et voilà. Là, c'est moi filmé par Jonas, voilà.
Et quel souvenir vous avez de ces... Justement, de ce voyage à Cassis, de cette rencontre, de ces...
C'était inouï, c'était quelque chose... D'abord, ça s'est passé dans une villa absolument de rêve, qui était sur les hauts de Cassis, la villa où vivait Jerome Hill en été. C'était un milliardaire américain qui avait chez lui des tableaux extraordinaires, des peintres fauves, de la période fauve, et qui représentaient justement la même scène qu'on avait sous les yeux. C'est-à-dire qu'il avait trouvé des tableaux qui montraient la baie de Cassis. Et alors, c'était hallucinant. On regardait avec émerveillement ces tableaux et on voyait le paysage réel. Et Jonas, à côté, qui nous filmait en train de regarder. Il y a, un peu plus loin, une séquence où il a accéléré au maximum le mouvement des images. Et ça devenait quand même une peinture de Van Dongen ou de Renoir fauve, n'est-ce pas? Et il avait accentué les couleurs très orange et très jaune, comme les peintres fauves. En fait, il faisait de la peinture avec le cinéma.
Inesha Brashiske, what is your most beloved film? Quel est votre film préféré de Jonas Mekas?
Let me answer with a short film.
Je vais répondre avec un film court qui s'appelle Cassis de 1966 et qui fait aussi partie du film Walden. C'est un film très simple. Mekas le filme dans le sud de la France où il est invité par Jérôme Hill. Jérôme Hill était un grand mécène de films d'avant-garde et expérimentaux à New York et un important soutien financier aux activités de Mekas. Donc, dans ce film, on voit les efforts de Mekas pour saisir une journée entière du lever au coucher du soleil. On voit un jour condensé. Et pour moi, il faut penser ce film en regard du film le plus connu d'Andy Warhol, Empire. Dans ce film, on voit l'Empire State Building pendant une nuit du coucher au lever du soleil. Et c'est Jonas Mekas qui cadre ce film. Et ce film de Warhol est connu pour sa durée, 8 heures, car ça tourne en 16 images par seconde contre 24 normalement. Donc c'est un film très 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 lent. Alors que dans Cassis, on voit cette journée comprimée.
And now, dear viewer,
maintenant, cher spectateur, vous êtes assis et vous regardez alors que la vie dehors continue de vibrer. Regardez juste ces images. Rien ne se passe de particulier. Les images défilent. Pas de tragédie, de drame, ni de suspense.
Just images for myself.
Juste des images pour moi-même.
One doesn't have to watch.
Vous n'êtes pas obligé de regarder, mais vous pouvez juste images. Vous asseoir et observer ces images
won't be here for very long.
Qui ne seront pas là pour longtemps.
There won't be small. This is Walden.
C'est Walden que vous voyez.
This is Walden, what you see.
Si quelqu'un me demande qu'est-ce que je dois voir en premier pour découvrir Jonas, je dis souvent Walden, c'est un chef-d'œuvre. Quand il a fait Walden en 69, il a commencé son montage avec des images qui dataient de 64, où les images deviennent plus intéressantes en tant qu'image. Et pendant Walden, on voit, pendant les 3 heures, le style devient de plus en plus saccadé. À la fin, il y a vraiment des images radicalement expérimentales.
Walden, d'abord intitulé Diaries, Notes and Sketches, puis also known as Walden, puis après Jonas, en fait, à un moment se dit Diaries, Notes and Sketches, ça va être l'ensemble de mes journaux filmés. Et puis, en fait, il ne va pas vraiment l'effectuer simplement pour des raisons de diffusion de ses films. Il fallait que chacun de ses films ait un titre. Ça ne pouvait pas être simplement le titre générique de l'ensemble des journaux filmés. Mais Walden a ceci de particulier que c'est un cinéma beaucoup plus radical. L'émotion n'est plus simplement l'émotion de l'exilé, l'émotion de la solitude que Jonas avait ressenti à New York dans les années 50, c'est l'émotion de capter tout ce qui peut arriver. Et c'est le moment où Jonas fait la connaissance de beaucoup d'artistes, de beaucoup de cinéastes à New York qui vont être très présents dans Walden. Ce qu'il pratique surtout, c'est le tourner monté. Donc, dans la caméra, au moment où il est en train de filmer.
Mais tout ça saccadé, syncopé, saucissonné dans des petites séquences qui se dissolvent les unes dans les autres. Il y avait un va-et-vient entre l'écrit et le filmé. Ça fait penser quand même au cubisme. Et comme vous savez, il était poète au début, n'est-ce pas? Et c'est son regard qui est un regard tout à fait spécifique, qui redéfinit la notion même de ce que c'est qu'une image.
Si on prend la première bobine de Walden, on y voit un certain nombre de jeunes filles, comme ça, dans Central Park. C'est un moment où Jonas filme beaucoup les jeunes filles de façon très, très élégiaque. On y voit Stan Brakhage traverser Central Park. On va assister, je crois que c'est là plutôt dans les bobines suivantes, au premier concert du Velvet Underground et la connaissance donc de Warhol. Warhol est quelqu'un qui est venu au cinéma parce qu'il venait s'asseoir de façon très timide à la Filmmakers Co-op pour assister aux projections. Hein, et donc c'est à ce moment-là que s'est noué comme ça une très grande amitié entre Warhol et Mekas. Il ne peut pas y avoir de cinéma plus antithétique, formellement, que celui de Warhol et celui de Mekas. Pourtant, bon, c'est le même univers.
Et alors, il y a quelque chose qui est une sorte de clé, on pourrait appeler ça comme ça, de son cinéma et de sa vie d'écrivain, de cinéaste. Il dit à un moment donné, à propos de Walden, mais de tout le reste aussi, « I celebrate what I see ». C'est-à-dire, j'exalte ce que je vois, ce que je perçois. C'est une vision du monde.
J'ai vécu à New York 25 ans et il y avait aussi une terre qui n'est plus là parce que beaucoup des personnes qui sont venues et qui ont habité et qui ont traversé la vie de Jonas aussi, c'est des gens qui venaient d'ailleurs avec d'autres vies. Chacun son parcours et c'est vrai que ces films retracent parce que c'était un autre temps de New York avec Walden. On voyait tous les gens qui m'ont inspiré, Richard Foreman, Mario Montes, Jack Smith, Mechounas, tous les gens qui ont vécu la ville de New York, l'énergie de New York. Et c'est ça qui m'a énormément émue, c'est que ça parle de lui, ça parle de son passé, de là où il vient, et en même temps, ça parlait de New York comme vraiment je l'ai connu et peu d'autres films peuvent le traduire.
Vous voyez, je fais des films, mais j'en regarde aussi.
Jonas Mekas à la Cinémathèque française en 2018.
Et si je vois un film unique et beau qui me met en extase, je veux le partager avec les autres. Je veux en parler avec mes amis. Et je veux qu'ils le voient pour qu'on en discute. C'est pour ça que j'ai créé des lieux comme la Filmmaker Cinémathèque et l'Anthology Film Archive, où je peux les montrer et mes amis peuvent venir et voir à quel point ils sont beaux.
Jonas s'est dit, bon, il faut sauver. Il faut préserver tout ce cinéma d'avant-garde dont se préoccupent relativement peu les cinémathèques habituelles. Et donc, il va fonder l'Anthology Film Archives, à laquelle il va consacrer beaucoup de son temps, beaucoup de son énergie. Moi, je me souviens d'une conversation que j'avais avec Jonas, où je lui disais, mais tu tournes beaucoup moins, etc. Et là, il m'expliquait que pour lui, l'essentiel, c'était de trouver des fonds, des grants, pour alimenter l'achat du bâtiment de l'Anthology Film Archives, puis après, plus tard, pour qu'il y ait un étage de plus pour y installer la bibliothèque de l'Anthology Film Archives. C'était absolument important pour lui. Et donc, Jonas a toujours mené en parallèle tout ce travail, comment dirais-je, militant, institutionnel, parallèlement à son œuvre de cinéma. Les deux étant très, très décisives pour lui.
Toute sa vie, il a tenu un journal. Il a raconté justement son combat, ses problèmes pour faire vivre les institutions. Est-ce qu'il vous parlait de ces problèmes ?
Bien sûr qu'il m'en parlait, c'est plus que ça même. Et puis je sais que Yoko Ono l'a soutenu. Il a des amis à New York. Il faisait des ventes de trucs, des artistes qui donnaient des œuvres pour des ventes aux enchères pour soutenir l'Anthology Film Archive. Parce qu'il y tenait tellement.
L'Anthology Film Archive, c'était vraiment la maison qui était 2e avenue, 2e rue. Le centre de East Village, qui était génial et qui est toujours là, c'est l'endroit où j'ai découvert un autre cinéma. Autant des films qu'on appelle live screening, donc des performances de films, à les films de Kenneth Anger, avec Kenneth Anger qui venait, les films des frères Kuchar, avec les Kuchar qui venaient, John Waters, Kid Lat, Robert Frank, tous les films Maya Deren, tous les films de Peggy Awish, des contemporains, des jeunes qui venaient aussi montrer des films.
Jonas Mekas a projeté Un chant d'amour de Jean Genet, qui était censuré aux États-Unis. Il a d'ailleurs fait un peu de prison pour ça. En quoi c'était important pour lui de contourner les règles habituelles de projection de films et de censure ?
Les syndicats de projectionnistes, on ne pouvait pas projeter un film si on n'engageait pas un projectionniste, un union projectionniste, ou bien pareil pour des tournages. Donc toutes ces règles-là, ils voulaient les casser. Alors ce n'est pas quelqu'un de militant d'une façon physique, de force. Mais quand il était à Paris, il a trouvé une copie d'Un chant d'amour qu'il voulait projeter à New York, en sachant que c'était des images interdites. Et du coup, il a coupé la bobine en bande qu'il a collée dans son manteau pour prendre l'avion. Et il a décidé de passer par Londres, de prendre l'avion de Londres à New York, parce qu'il savait qu'il y avait moins de contrôle qu'entre Paris et New York. Et en passant le contrôle douane, il passait par hasard derrière quelqu'un qui avait une valise pleine de livres. Et la personne passait avec sa valise, demandait d'ouvrir la valise, il y avait plein de livres, ça a passé un moment avec les douaniers. Tandis que quand Jonas est passé, ils n'ont rien demandé. Et il est arrivé à New York, il a recollé la bobine et il a projeté.
C'est un lieu où on se retrouve, où on va ensemble voir des films, où Jonas apparaît dans son bureau, toujours la tête souriante et puis le bras en l'air, « Hello !» Comme ça, avec une petite histoire, un café, une petite déambulation, des questions, toujours joyeux, et qui apparaissait et disparaissait des salles de projection, qui nous racontaient des histoires. Puis il y avait le box-office qui est légendaire, qui est quand même le lieu où tous les murs sont complètement couverts de tous les films, les photos, les posters, les gens qui sont nus, de Warhol à Mario Montes, à Jack Smith, à Maya Deren, tous ces gens sont au mur. Et Jonas venait tout le temps. Et après, on allait en face au Mars Bar. Moi, je bois pas, donc je les regardais boire. Mais c'était des sacrées portions de vodka qui allumaient les soirées, bien sûr, encore plus. Mais ce que j'adorais, c'était... Il y avait toujours une joie, en fait, parce que il y avait cette tristesse qui portait en lui qu'on retrouve dans ses films, et en même temps, une intensité folle de vie. Tout était cinéma, tout était amitié, tout était rencontre et musical. Souvent, ils arrivaient et tapaient dans une casserole dans l'entrée du cinéma et chantaient une chanson en passant d'un endroit à l'autre. Enfin, c'était vraiment assez incroyable.
Le rédacteur culturel du journal soviétique La Pravda, Yuri Yukov, est venu à New York.
Jonas Mekas, à la Cinémathèque française, en 2018,
pour rencontrer Allen Ginsberg. Donc, il m'a appelé pour que je le lui présente. On est devenus amis, on a bu beaucoup de vodka ensemble. Plus tard, j'ai été invité au Festival du film de Moscou en tant que critique de Film Culture. C'était en 1971. Là-bas, j'ai dit, je veux aller en Lituanie. Les Russes autour de moi me disent, non, vous ne pouvez pas y aller. C'est interdit. Il faut un permis. Vous ne pouvez pas y aller. Donc j'ai dit, pourriez-vous me mettre en relation avec Yuri Yukov ? La Pravda, c'était Dieu là-bas. Et tout de suite, non, c'est bon, on vous amène en Lituanie. Donc, nous arrivons en Lituanie, à Vilnius. Et là, je dis, j'aimerais rendre visite à ma mère, dans mon village. Non, c'est interdit. Vous ne pouvez pas. On fera venir votre mère ici, à Vilnius. C'est contre la loi. Oubliez. Et j'ai dit, s'il vous plaît, pourriez-vous me mettre en relation avec Yuri Yukov ? C'est bon, c'est d'accord. Vous irez au village. Aussi, je leur ai dit que je voulais filmer avec ma caméra Bolex. Non, non, ne faites pas ça. On va vous donner une équipe professionnelle et on va filmer pour vous. J'ai refusé. Je n'ai besoin d'aucune aide, d'aucune équipe de tournage. J'ai ma Bolex. Donc ils m'emmènent voir ma mère dans mon petit village. Mais il y avait toujours un camion plein d'équipement dans un coin. Des hélicoptères qui tournoyaient au-dessus de nous. Je ne savais pas ce qu'ils pouvaient entendre ou voir, donc je devais faire très très attention à ce que je disais et faisais. Mais en ce qui concerne ce que j'ai filmé, j'ai pu faire tout ce que je voulais et je les ai simplement ignorés.
Il avait 27 ans quand il est arrivé à New York en 1949 et il fallait attendre 27 ans avant de revenir voir sa mère. Ce n'était pas la dernière fois. Il a retourné 3 fois après voir sa mère. Donc 27, c'est un chiffre important pour lui.
Ce film, Réminiscence d'un voyage en Lituanie, est un vrai chef-d'œuvre.
Audrius Stonys, cinéaste.
La mère qui a tant souffert, tant perdu, sa joie silencieuse mélangée à la tristesse. J'ai été absolument frappé par cette image. Et aussi la façon dont il décrit son pays, la Lituanie, ses petits aperçus. Comment filmer ses souvenirs? C'est presque impossible, car la mémoire n'est pas une histoire linéaire qu'on peut raconter. Notre mémoire est faite de ces éclats. Donc je pense que Jonas Mekas a trouvé dans ce film la forme parfaite pour raconter ses souvenirs et ce qu'il en reste. Quand il revient, il se souvient du visage de sa mère, des galettes, il se souvient du souvenir de son oncle, de la route. Ça devient tellement, tellement universel. Et ça déclenche nos propres souvenirs. Soudain, c'est ma grand-mère que je vois dans le visage de sa mère. Certaines choses semblent tellement naïves, tellement vraies, que je me demande si je ne les ai pas vécues moi-même. C'est un miracle qu'opère Jonas Mekas.
C'est un film que Jonas a quasiment monté dans le mouvement, à la différence des autres films où il y a chaque fois un écart temporel entre le moment où il monte le film et le moment où il l'a tourné. Là, c'est dans le sillage. Et je pense que c'est un très beau film de Mekas parce que c'est un film qui nous fait voir de façon très très sensible, très immédiate, qui structure à mon sens la plupart des films de Mekas. On a tendance à penser que, parce que ce sont des journaux filmés, c'est purement chronologique. D'une part, il arrive à Jonas de tricher avec la chronologie, mais il y a surtout un mouvement, je dirais, un mouvement spiralé dans l'œuvre de Mekas. Par exemple, au début de Lost, 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 il filme 3 jeunes filles, 3 jeunes lituaniennes en train de danser. À la fin de Lost, 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 il va filmer 2 autres jeunes filles en train de se baigner et sur le point de danser. Et cette construction en spirale, on la retrouve dans beaucoup de films de Jonas. Quand Jonas filme New York, en fait, il continue comme un palimpseste de filmer derrière New York sa Lituanie natale, parce que New York, dans les films de Jonas, c'est pratiquement tout le temps sous la neige. Bon, bien sûr, il y a des printemps, mais bon, la neige est très très présente et c'est en fait son enfance lituanienne ou son adolescence lituanienne que Jonas retrouve à New York. Et quand il est en Lituanie, il filme ses proches de la façon la plus simple, la plus frontale, presque comme des vrais home movies. Hein. Le cinéma de Mekas est un cinéma qui a complètement transcendé la forme du film de famille. parce qu'il l'a portée à incandescence, il l'a rendue vivante, alors qu'en général, elle est très cérémonieuse et sécrète un ennui infini, ce qui n'est jamais le cas d'un film de Mekas. Quand on regarde un film de Mekas, on se dit, je regardais 10 minutes, puis en fait, on est pris, on se tape 3 heures de film sans aucun... dans une espèce comme ça de bonheur absolu.
As I sit in my...
Alors que je suis assis...
This late
tard,
night,
cette nuit,
and look at some of
et que je regarde quelques-unes des images que j'assemble,
splicing, putting together, I wonder,
je me demande,
I wonder how much of
je me demande combien de vous-même vous verrez et reconnaîtrez
in these images.
Dans ces images.
I'm talking to you now.
Je vous parle à vous,
Una,
mes enfants,
and Sebastian and Hollis,
et ma femme.
I'm talking to you.
Je vous parle à vous
now.
Maintenant.
These are my memories.
Ce sont mes souvenirs.
Your memories of the same moments.
Vos souvenirs du même moment.
If you will have any,
si vous en avez,
be very different.
Seront très différents.
I picked up those moments to which I responded.
J'ai choisi ces moments car ils me rappelaient ma propre enfance.
Remembering my own childhood. So I do not know how much of
donc je ne sais pas combien de vous-même. Vous verrez, même si tout était vrai, c'était la vraie vie. C'est vous. C'est vous. Dans chaque image de ces films.
La beauté, je dirais, et l'émotion des films de Jonas vient souvent de l'écart qu'il peut y avoir entre le moment où il tourne ces images et le moment où il les monte. Quand on dit « il les monte », c'est très discutable parce que Jonas avait une expression comme ça qu'il rapportait souvent. Il disait, Rimbaud avait ses illuminations, moi j'ai mes éliminations. C'est-à-dire que le travail de Mekas consistait surtout comme ça à enlever des choses, à respecter en général un peu l'ordre chronologique de ce qu'il avait tourné, mais à enlever des choses. En revanche, il commente ce qu'il a vécu. Et il le commente effectivement avec, pour Lost, 25 ans de distance. Et c'est ça qui donne à ces films cette dimension, je dirais, poignante, très nostalgique, où il retourne sur son passé, où il réfléchit sur l'exil, où il parle de ses amis, parfois de ses amis disparus. Au début des années 90, au moment où disparaissent un certain nombre de ses amis, il décide de monter à partir des matériaux qu'on trouve souvent dans les journaux eux-mêmes, dans les journaux filmés eux-mêmes, des portraits. Je dirais que ce sont presque comme des tombeaux poétiques au sens où on pouvait le faire au XVIe siècle. Il va d'abord le faire pour Warhol, puis pour Masunas, John Lennon, et puis Jackie Kennedy, dont il était assez proche parce que, pour vivre, à un moment, il a donné, des leçons de Super 8 aux enfants de Jackie Kennedy.
May 9th, 1978. A note I found on the table when I came home to eat. Dear Jonas, George died this afternoon. Niole will probably call you. We are on the 10th floor. Love, Hollis and Una.
Donc, je me retrouve au jeu de paume, à la gauche de Jonas, que j'avais jamais rencontré. On me fait asseoir à côté de lui. J'ai juste au début de la séance, dans le noir. Et c'était le film de Jonas sur George Matsounas. Et qui est magnifique, ce film. Et je regarde un tout petit peu de Jonas et je vois des larmes qui roulent sur son visage et les gouttes qui tombent sur ses genoux.
Zéphiro Torna, or The Sins of the Life of George Masunas, est peut-être le plus bouleversant d'entre eux. Parce que Masunas était lituanien comme Jonas, exilé comme Jonas. C'est le fondateur de Fluxus. Et donc, Jonas avait une très grande relation. Au début de Zephyroth en A, d'ailleurs, il reprend par exemple une série de plans qu'il avait tourné dans les années 50 et qu'on trouve dans Lost, par exemple. Mais au moment où il fait ce film, Masyounas est mort d'un cancer. Et là où le film est très, très poignant, c'est que en fait, il y a une disjonction, un écart, un hiatus entre les images qu'on peut voir, souvent comme ça, des performances très légères, très drôles, très amusantes de Masyounas et d'autres artistes Fluxus, et puis la voix très triste de Jonas en train de lire en fait les fragments du journal écrit qu'il a tenu les derniers mois de la vie de Masyounas. Le tout étant pris entre deux madrigaux de Monteverdi que Masyounas aimait beaucoup, parce que Masyounas était à la fois un artiste d'avant-garde, mais il considérait qu'après Monteverdi, il n'y avait plus rien d'intéressant. Et donc c'était un artiste très paradoxal, et c'est une des dimensions de Masyounas qu'aimait, je pense, beaucoup Jonas.
Beaucoup de ces images ont été montées 30 ans après qu'elles ne soient tournées. Et le temps qui passe a donné de la valeur à chacune d'entre elles. C'est un miracle. Soudain, ils luttent contre le temps et contre la mort. Même ceux qui sont morts parlent, rient dans ces films. Il a trouvé une façon d'arrêter le temps et de combattre la mort.
Ce que vous voyez, chaque seconde de ce que vous voyez est vrai. Là, juste devant vos yeux, tout ce que vous voyez est vrai. Là. Devant vous. Oui. Sur cet écran. Tout est vrai.
Jusqu'en 2000, il a continué en 16 mm. Mais les premiers 10-15 ans, il sentait qu'il se répétait beaucoup, que les films se ressemblaient beaucoup et que ça lui ennuyait un peu de se répéter. Donc c'est là où il a commencé à prendre une caméra DV-cam et de filmer en vidéo, de tourner en vidéo et d'essayer de trouver un autre style. Il y a une vidéo qu'il a fait en 84 qui s'appelle The Education of Sebastian ou Egypt Regained. C'est une vidéo de 4 ou 5 heures qu'il a fait en Égypte, en voyage. Et en fait, dans cette vidéo, on voit qu'il essaie de simuler le bodex. Évidemment, ce n'est pas exactement fait pour et il n'arrive pas tout à fait. Et le film qu'il a fait en 2004, la vidéo qui s'appelle A Letter from Greenpoint, pour lui, c'est la première vidéo réussie, comme une œuvre en vidéo.
Alors, dans son loft, c'était bourré à craquer, d'abord. Et il y avait de tout là-dedans, y compris des choses absolument inouïes. Le dernier vélo de Maya Deren, qui était là. Une boîte de chaussures. Vous savez ce qu'il y avait dans la boîte aux chaussures? La barbe de Allen Ginsberg. Car un jour, Ginsberg avait envie de changer, il s'est coupé sa fameuse longue barbe rabbinique et il voulait redevenir un jeune homme ou je ne sais quoi. Et Jonas lui a dit « Attends, c'est précieux ça ». Il a gardé la barbe de Ginsberg, il l'a mis dans une boîte à chaussures. C'est inouï, non? Voilà, il avait toutes sortes de choses. Mais son travail à lui, il a gardé des bobines numérotées et titrées de tout ça. Et où est-ce qu'il gardait tout ça? Dans ce qu'il appelait « the secret room ». Et c'est là qu'il faisait son bout à bout.
Il y a plein de questions qui se posent sur son rapport entre lui et ses images. En 2012, il a fait un film qui s'appelle « Outtakes from the Life of a Happy Man ». Et dans le film « Outtakes », en fait, il reprend pas mal de projets inachevés dans les, par exemple, cartons qu'on voit pendant le film, Je pense qu'il a fini par utiliser presque toutes les images. Il a vraiment su intégrer tous les fragments. Il a même fait une installation en musée qui s'appelle Riette, parce qu'il disait que sa mère faisait tout ce qu'on pouvait faire avec un porc jusqu'à faire des rillettes avec les petites miettes qui restaient.
Jonas avait sur ses étagères un certain nombre de bobines et qui menaçaient de disparaître, que les couleurs disparaissent. Il l'appelait d'ailleurs « my fading film ». Voilà, mon film qui est évanouissant ou disparaissant. Et c'est pour ça que c'est des outtakes comme un chutier. On aurait pu penser que c'était effectivement comme un testament de Mécas. Ce qu'à mon avis, il n'est pas. C'est une espèce de remontée jusqu'à la source la plus vive, la plus enfantine de son cinéma. Le film culmine à un moment où Jonas évoque, et il ne l'a pas filmé, évoque comme ça une journée qu'il a passée au champ avec son père. Et à la fin de la journée, ils sont tous les deux assis sur le lit. Et Jonas, enfant, il a 5 ans, repense à l'intensité, à l'émotion de cette journée. Les souvenirs lui ont échappé, il ne se souvient plus. Ce dont il se souvient, il ne l'a pas filmé. Hein, ce souvenir d'enfance qui est à l'origine, au fond, de toute son existence et de toute son œuvre cinématographique ou écrite ou poétique. Mais ces images, désormais, elles sont les seules vraiment partageables avec tout un chacun. C'est le film qui nous lègue, hein, c'est le film qui nous lègue, qui, en quelque sorte, qui boucle son œuvre, qui ne la referme pas, mais qui la fait remonter à ce qui l'alimente et à ce qui continue de l'alimenter.
Est-ce que vous pouvez nous décrire la fin de Outtakes from the Life of a Happy Man?
Dans la fin de Outtakes, on y voit justement l'une des jeunes femmes qu'on a vues au début de Walden, pieds nus dans l'herbe. Et ça, c'est la plus belle image qu'on puisse se faire du rapport de Jonas au monde, à la réalité du monde, à son hypersensibilité, c'est-à-dire à les pieds nus, on sent la fraîcheur de l'herbe sous ses pieds, et c'est une image donc qui vient de très loin dans son œuvre, à travers ce très joli plan. Et suite à cela, la visionneuse, le film se déroule à toute allure, Jonas est en quelque sorte en train de rembobiner quasiment toute sa vie, quoi.
C'était Jonas Mécas, L'homme caméra, un documentaire de Bruno Barada réalisé par Nathalie Sall. Merci à Pip Chodorov, Patrice Rollet, Jean-Jacques Lebel, Marie Lozier, Agnès B., Audrius Tonis et Inesha Brachisqué. Merci à Sébastien de Mécas pour les extraits des films. Avec les voix de Guillaume Potier, Anne Stephens, Boris Pinault. Prise de son, Andreas Jaffré et Mathieu Tourin. Mixage, Mathieu Tourin. Coordination, Anaïs Quien, Sylvia Favre.
C'était toute une vie. Réécoute, podcast et bonus sur l'application Radio France et sur le site franceculture.fr.